qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile.
Alors, chers amis auditeurs, un petit incident technique. Non, ça passe pas. Bon.
Il est encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Eh bien, puisque vous avez eu deux fois le générique, il y a visiblement des petits problèmes. Édito du lundi 30 janvier 2023 du Monde Merveilleux d'après. La désaffection des travailleurs pour les syndicats un sujet que nous avons entamé le 21 novembre 2022 et que nous prolongeons ce soir pour un comparatif international. Pour ceux qui auraient écouté notre émission du 16 janvier, eh bien, mon pessimisme a été démenti par la participation massive des travailleurs à la manifestation du 29 janvier contre la réforme des retraites. Mais cela ne remet pas en cause la désaffection des travailleurs pour les syndicats, même si ces derniers peuvent encore faire appel aux ouvriers qui savent encore se mobiliser sur des grands thèmes sociaux. Nous retrouvons Martine de la CGT Infocom, notre invitée récurrente. Eric, la gâchette facile pour sa chronique du Mercator. Et Bénédicte à la technique qui va nous enchaîner tout ça. On va essayer parce que j'ai l'impression que le studio ça merde un peu la technique. Enfin, c'est pas la technique qui merde, hein, c'est le. Il y a des choses qui marchent pas. Monique, tu vas recevoir un mail de. Il n'y a pas de journée mondiale à célébrer aujourd'hui, mais une sainte, Martine. Comme ça tombe bien. Bonne fête, Martine.
Oh, merci. Trop chou, Piquette.
Piquette. Vous savez tout maintenant. L'émission sera coupée de pause musicale pour que vous puissiez digérer nos divagations. Alors, comment profiter de l'émulation portée par le mouvement contre la réforme des retraites? Vous le saurez en écoutant Le Monde Merveilleux du Travail. Après quoi, vous irez prendre votre carte chez les anarcho-syndicalistes révolutionnaires.
Surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor. Hourra. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Ah ouais. Patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
Bonne année, bonne manif et syndique-toi. Amis auditeurs du monde merveilleux du travail, chef puissant, enfin, pas toujours, et vénéré, chaton rouge, karatémique au loin, Manu là-haut quelque part, camarade technicienne, assoupi, j'allais dire, mais non, pas du tout. Bonsoir. Bonne année les auditeurs du monde merveilleux du travail, et surtout, bonne santé. Vous, que dis-je ? Nous avons intérêt à la garder bonne, la santé. Surtout avec les projets et les lois scélérats des gouvernements de la République macronique, qui nous tombent dessus en rafale. Soyons clairs, nous sommes en chemin pour travailler jusqu'à ce que les patrons n'aient plus besoin de nous. Et pour ça, il n'y a pas d'âge légal, mais un âge létal. Et il a tendance à varier selon les individus. Pourtant, comme disaient les sages dans leur camionnette à plateau de marque Peugeot,
dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Bonne année, bonne santé. Parce que si tu tombes malade, ami auditeur hypochondriaque du monde merveilleux du travail, tu n'es pas assuré. Ah, j'aime te piquer au vif avec de bons mots. Donc tu n'es pas assuré de trouver un généraliste conventionné secteur 1 pour te recevoir en consultation. Et comme tu ne peux pas ou tu ne veux pas payer un dépassement, quelle mauvaise volonté quand même. Et fais un effort pour ta santé, bordel. Donc tu ne veux pas payer un dépassement pour financer les vacances au ski du bon docteur non conventionné de secteur 2 à 80€ la visite de 10 minutes chrono. Tu files comme un paix sur une toile cirée à l'hôpital public au service des urgences. Et là, tu engorges et tu fais chier d'autres pauvres, d'autres mal lotis du libéralisme débridé. Le prolo est égoïste et peu sensible à la condition de la bourgeoisie médicale. Comment ? Tu pensais que la sécu d'Ambroise Croizat était déjà suffisamment généreuse avec les médecins ? Erreur ! Après avoir bien géré le numerus clausus de 1971 à 2019, afin que les parts du gâteau à partager soient toujours plus grosses dans le cadre d'un entre-soi bien compris, la plupart des médecins de ville, généralistes et spécialistes, presque tous enfants de bourgeois, ont trouvé autre chose pour nous stresser et nous dominer. Aujourd'hui, ils ne veulent même plus aller travailler, aller exercer dans les espaces d'appauvrissement et organisés. Dans les espaces d'appauvrissement organisé, c'est en direct, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Les banlieues délabrées et le rural bien profond. Car leur serment d'hypocrite vise à rentabiliser leurs 7 ou 8 années d'études, par ailleurs financées par la collectivité, pour pourquoi ? pour développer une clientèle. Ami Kakoshim et acariâtre du monde merveilleux du travail, tu finances les médecins en pensant financer la médecine. Ah, je vois que tu viens de faire un petit malaise. As-tu bien pris tes gouttes? Rassure-toi, les médecins sont bien organisés pour faire valoir leurs avantages et leurs droits. Ils sont syndiqués. SMG, SNJMG, SML, FMF-UG, etc. Que des acronymes d'organisation catégorielle. Et toi, camarade auditeur énervé du monde merveilleux du travail, es-tu syndiqué? Je sens que tu te retournes pour scruter derrière toi. Non, non, c'est bien à toi que s'adresse le Mercator. Tu ne sais que dire? Tu ne réponds pas? Malheureux, c'est normal. Le monde merveilleux du travail ne permet pas que tu t'exprimes. N'est-ce pas, chef vénéré, troublé, à la crinière léonine et au regard féroce, mais inquiet néanmoins? N'oublie pas ta condition d'auditeur. Tu n'es pas locuteur. Sens-tu le pouvoir et la force du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation de la région parisienne de la CNT? Bon, c'est un peu long, mais efficace. Impressionnant. C'est un petit exemple pour illustrer la puissance du syndicat en général et d'une autre en particulier. Souviens-toi du jeudi 19 janvier 2023, lorsque des centaines de milliers de syndicalistes ont manifesté publiquement leur opposition nette et franche à la nouvelle réforme des retraites. Les médias les plus hostiles se sont tus. Les médias les plus tièdes ont prédit un essoufflement où, selon leur habitude, à construire du sensationnel, de l'émotion, du record et de l'irrationnel, ont lancé à des syndicalistes choisis et invités sur leur plateau des, je cite, « Espérez-vous dépasser les 2 millions la prochaine fois ?» ou encore « Ne craignez-vous pas d'être rapidement impopulaire en prenant les Français en otage ?» Nous le disons ici, tout net, le 31 janvier prochain, nous devons être des millions à manifester notre opposition à ce projet, mais pas que. La seule véritable prise d'otage a été opérée par la bourgeoisie et les patrons. La lutte des classes continue, car en réalité, elle n'a jamais cessé. Contrairement au discours de la propagande de ces mêmes médias, soi-disant au nom des libertés. Il ne s'agit jamais que des libertés de leurs patrons qui possèdent, du reste, des médias directement ou par des participations financières croisées dont les journalistes en question sont les relais serviles, les villes valets. Ces patrons sont des personnes physiques comme Arnaud, Bolloré, Patrick Drahi, etc. Des familles, Bouygues, Dassault, Lemoine, ou des États comme la République française, les Länder allemands, je pense notamment à Arte. Il serait aujourd'hui 9 milliardaires à posséder 90% des médias français, un record. Eux aussi sont syndiqués dans des structures peu connues du grand public, comme le syndicat des médias de service public, le CIRTI, la FNPS, etc. Dans le commerce, les patrons adhèrent à des syndicats tout aussi invisibles pour leurs propres salariés, comme la CGAD, l'UNAPL, etc. Souvent rattachés à des organisations de branches puissantes, elles-mêmes affiliées à des structures nationales plus visibles, celles-ci, comme, tu dois les connaître, camarade, la CPME, la FNSEA, le MEDEF. Leurs syndicats sont bien financés, rassure-toi, et fortement imbriqués. Si ton patron, d'aventure, te dit que le syndicalisme c'est mal, il ment. S'il te rétorque que le syndicalisme ne doit pas être politique, il ment aussi. S'il ajoute que le syndicalisme ne sert à rien, il ment carrément. En revanche, si ton patron nuit à ta santé physique ou psychique, s'il refuse de t'augmenter, s'il te contraint de quelque manière que ce soit par une organisation de ton travail aberrante, syndique-toi et lutte. Pour rappel, selon la DARES, de 1949 à 2019, le taux de syndiqués en France est passé de 30,1 à 10,3%, public et privé confondus. En 2019, les ouvriers et les employés, ce sont les catégories qui se syndiquaient le moins. La tranche d'âge la plus syndiquée était alors celle des salariés de plus de 50 ans. Oui, dis-nous, pas brillant le bilan. Alors, rejoins la CNT. La chaîne chute est un peu facile, mais quand même efficace. Ami auditeur fébrile du monde merveilleux du travail, j'espère que tu as fait le plein de bûches au marron et de dinde OGM, que le congélo déborde. Parce que depuis le début du mois, même les pâtes deviennent une denrée de luxe. Néanmoins, les sucres lents, c'est l'arme indispensable du syndicaliste pour affronter le froid, le vent et l'effort collectif de la revendication d'un présent meilleur. Oui, d'ailleurs, pour quoi attendre demain? Le présent doit être meilleur. Demain, mardi 31 janvier, fais bombance avec des pâtes et n'oublie ni ton bonnet, ni tes moufles et éventuellement ton parapluie. Et si tu n'as pas encore adhéré à la CNT entre maintenant et demain 14h, ami auditeur du Monde Merveille du Travail, c'est que soit tu es en prison, soit tu es en soins palliatifs ou assis sur ton pouce préféré. Le syndicalisme révolutionnaire, voilà le moyen de l'émancipation des travailleurs. Comme a dit le poète helvétique, nous irons jusqu'au bout de nos rêves, même si c'est sans espoir. Allez, à bientôt et arrêtez d'acheter tout le temps n'importe quoi, n'importe comment.
Eric.
Oui, alors vous venez d'écouter les Vaches Laitières, un morceau qui s'intitule Jusqu'au bout de nos rêves, comme vous l'avez compris. Puis, puisqu'on est hors antenne, alors on.
Pas si vite, hein, ça date de 2012.
Oui, de 2012.
Et alors, tu le sais ou pas, Stéphane. Alors, c'est un groupe suisse.
Suisse.
Stéphane Costelli, qui était le batteur du groupe. Ouais. Hein, est décédé à l'âge de 46 ans en avril 2022.
Voilà.
Donc,
si,
ne les écoute pas du coup. Bah, pour une fois, c'était un très bon choix musical. En habitude, je critique tes choix de merde. Mais là, Bravo. Bravo, bravo, bravo. Voilà, moi je voulais m'excuser aussi parce que s'il y a eu du bordel, si on n'entendait pas les... C'est de ma faute. Voilà, c'est moi qui ai mal. Monique, c'est pas la peine, ça tout marche. Est-ce qu'on peut faire une petite synthèse récapitulative de l'aboutissement de nos échanges lors de la précédente émission du 21 novembre 2022 dans laquelle nous avions plus ou moins fait le constat d'une décroissance d'adhésion aux syndicats institutionnels depuis 30-40 ans. Un fort turnover dans certains nouveaux secteurs d'activité qui ne se prêtent guère au syndicalisme de long cours et où souvent il n'y a pas de tradition syndicale. La peur, la stigmatisation au sein de l'entreprise, n'est-ce pas ? La crainte du licenciement, qui entre en contradiction avec le turnover, mais aussi par l'apparition des CSE devenus depuis 2019 des CSE qui ont substitué l'idée de la lutte collective à une remontée de mécontentement par délégation électorale, par des élus d'entreprise, syndiqués ou non d'ailleurs, mais qui offrent gratuitement un service que pourrait garantir le syndicat en y adhérant financièrement. Voilà. Alors, nous, anarcho-syndicalistes révolutionnaires, ne considérons pas les élections professionnelles comme une fin en soi, mais comme un levier légal et, mais néanmoins obligatoire, de proposition sociale, mais qui, paradoxalement, nous enferme dans le partenariat social. Voilà. Et nous avions terminé l'émission par cette interrogation de Martine, tout ça revenu. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les syndicats français et qui fonctionne si bien dans tous ou presque les autres pays, vu leur taux de syndicalisation? Et Martine nous redonnera les chiffres. J'aime bien ça, les chiffres.
Oui.
Et alors, c'est la différence, elle est numérique. Encore une fois, le taux de syndicalisation, c'est du chiffre. C'est pas forcément ça renvoie pas à un type de syndicalisme, encore que, mais c'est comment on obtient ces chiffres qui est intéressant aussi. C'est l'émission, le but de l'émission, c'est aussi d'avoir un petit. Alors, peut-être pas international, parce qu'on. Ça demande énormément de travail et on fait ça après nos heures de travail. C'est notre temps de loisir, mais un petit éclairage européen, déjà, c'est bien.
Ouais. Parce que tous les syndicats ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a quand même des particularismes, un particularisme français. Ouais. J'estime que, à part les syndicats révolutionnaires, comme la FAU en Allemagne, la SAC en Suède, les IWW aux États-Unis ou en Amérique du Sud, tout un tas de structures. Syndicaliste révolutionnaire. Les autres syndicats, pour moi, c'est un petit peu plus proche du tradunionisme, y compris la CGT. Je suis désolé. Enfin, dans l'esprit. C'est FDT aussi, t'inquiète pas, Martine. J'ai coupé la chic, du coup.
Mais non, pas du tout. Non, à titre informatif, pour compléter la nécrologie de Stéphane Rostelli, le batteur des Vaches Laitières, qui était un excellent groupe, qui reste un excellent groupe. J'espère qu'ils vont revenir. Ils ont sorti un petit EP, mais bon, ils n'ont pas trop la frite depuis le décès du batteur. Ça fait quand même 20 ans, 25 ans qu'ils se connaissaient, 25 ans. Il était un ouvrier, un mécanicien, donc c'est un prolo. Donc ça ne gâte rien et c'est un groupe sympa, très.
Ouais, j'ai bien apprécié. Voilà.
Même sympa comme ça, en dehors du, en dehors de la musique.
Donc,
Donc la Suisse, c'est
Öchner nous a quittés. Ouais. C'est son surnom.
Ouais. C'est une le nom d'une marque de produits mécaniques.
De boîte de lait ?
Non. Je pense pas, non. Non, non, c'est une marque de produits mécaniques. Alors, cette interrogation...
Ce que vous avez oublié, quand même, de dire aussi se syndiquer, c'est aussi faire une croix sur sa carrière. Je ne sais pas si tu en as parlé de ça, parce que ça, c'est la principale des...
Il l'a vécu.
Je le vis, c'est pas je l'ai voilà. vécu, je le vis.
C'est le principal des freins que j'entends, c'est alors se syndiquer, c'est faire une croix sur sa carrière, ou c'est entrer en conflit permanent avec sa hiérarchie. Ensuite, j'entends aussi, ça prend trop de temps et ça coûte cher. C'est vrai que l'offre de syndicalisme en France a la particularité de demander une cotisation de l'ordre de 1% du salaire.
Ça, c'est à la CNT. Voilà. Je ne sais pas dans les autres syndicats. Mais
non, c'est moins chez vous.
Nous, c'est 1%.
Ah ouais, nous, aussi, c'est 1%.
Non, mais il y a d'autres syndicats où tu as un forfait.
Un forfait.
C'est-à-dire, alors après, tu as un forfait cadre, un forfait ouvrier. Mais n'empêche que
Mais c'est un coût quand même. Tu vois, et qu'est-ce que l'offre du syndicat en échange? C'est, en gros, accéder à des outils d'information, assistance juridique, si problème. Donc, tu vois, déjà, la personne qui syndique, je dis, ah oui, mais peut-être que je vais avoir des problèmes, donc c'est bien que je sois syndiqué. Accéder à la formation économique, sociale, syndicale. Et du coup, ça se résume à ça, l'offre des syndicats en France.
C'est une offre de service, hein. C'est des syndicats de service.
C'est ce que j'allais dire.
Alors, donc, j'ai fait une petite étude
qu'on parte sur les Européens, mais justement, c'est ce qui distingue aussi les syndicats. Alors, il y a les syndicats de service, qui proposent un service, en tout cas. Et les syndicats autogérés, nous, non seulement, alors on paye 1% du salaire, enfin une cotisation qui représente 1% du salaire de base, parce que effectivement, ça permet une égalité entre tous ceux qui ont on a tous des salaires différents. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des forfaits, même chez les ouvriers, que tu gagnes 1002 ou que tu gagnes 3000, quand tu payes 8,50 € par mois, multiplié par 12, c'est pas la même dépense pour quelqu'un qui gagne 1002 que quelqu'un qui gagne 3000.
Quand même, si tu le déclares aux impôts, tu as 66% de reverser, ça s'appelle. C'est Coluche qui a fait passer cette loi. Donc les syndicats profitent de cette loi tu peux déclarer le montant de tes cotisations syndicales et tu as 66% d'exonération par rapport
C'est comme quand tu fais un don à une association. C'est la même chose.
C'est quand même intéressant à communiquer.
Alors déjà, tous les syndicats n'en bénéficient pas parce qu'il faut faire partie des syndicats dits représentatifs.
C'est ça.
Et donc, effectivement, et les impôts des travailleurs vont, en fin de compte, les syndicats représentatifs reçoivent de l'argent de l'État parce que des travailleurs sont taxés. Et voilà, donc, oui. Donc, des salariés qui se plaignent parce qu'ils ne ramassent pas de tous les côtés, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Alors, nous, dans les syndicats autogérés, non seulement on déclare ou on ne déclare pas aux impôts, normalement on n'y a pas le droit, mais en plus il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Donc on ne reçoit pas un service, c'est nous qui proposons, on propose nous des services à des gens qui ne sont pas adhérents. Quand on fait les permanences, on reçoit tout un tas de gens qui ne sont pas adhérents, qui ont des problèmes avec leur patron, après on le gère comme on veut, mais en tout cas le premier contact, c'est gratuit, on ne demande pas de payer.
Oui,
après, c'est à nous de les orienter vers les syndicats d'appartenance.
Ah. Mais bon. C'est pas partout, hein. Pas moi, partout. Mon parcours syndical.
Ah, le premier rendez-vous.
Mon premier rendez-vous, il n'a pas été la CNT. Je suis dans un syndicat que je ne nommerai pas parce que c'est une. Ça me provoque des démangeaisons. Mais. Et on m'a demandé, au bout de 3 minutes, hein, j'avais exposé la situation assez. Dans les grandes lignes. Hein. Et on m'a dit, la première chose à faire, c'est d'adhérer. Et donc, qui dit adhésion, dit paiement. Il m'avait demandé un ou deux trimestres de cotisation.
Ah moi, j'ai même des collègues qui sont allés. Moi, je vais citer, c'était la CFTC à l'époque.
C'est le même.
Je m'en doute bien. Et non seulement, ils ont dit aux collègues qu'il fallait... c'est bien, il faut adhérer, mais ce serait bien aussi que ta femme, elle adhère. Et puis, toute la famille, quoi.
Voyons.
Non mais je non mais c'est pas moi, moi j'y suis jamais allé là-bas. C'est mon collègue qui a fini par adhérer ce syndicat-là qui m'a répété ça.
J'y suis allé, mais je n'y suis pas resté plus de 5 minutes. L'expérience m'a suffi. Mais quand on est novice en syndicalisme, on se laisse aller à des voilà.
Ouais, ça dépend pourquoi. Non mais là t'avais peut-être une idée derrière la tête quand t'as fait ton projet de syndicalisation. Mais tout le monde n'a pas ce projet. Des fois tu vas effectivement un petit peu comme l'a énoncé Martine, tu vas rencontrer un syndicat pour aller chercher un service, et un des services c'est d'avoir la protection de représentants du personnel, quand t'as été élu ou si t'as été désigné RSS ou délégué syndical. Et puis voilà quoi. Donc après tu peux recevoir des informations, mais en général, quand t'es élu, après c'est le service, c'est quand même les ordres de délégation. Ouais. C'est quand même un truc. Ça marche.
Ça, c'est pour travailler.
C'est pour travailler.
Pas
tous. Je peux te dire que pas tous.
C'est
pas
les soldes.
Oui, non, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont élues qui ne sont pas actifs. Ça, c'est sûr aussi. Oui, c'est comme les adhérents qui ne sont pas actifs. Ça existe aussi.
Le
principal frein, c'est pas forcément. C'est pas forcément les cotisations, en fait, c'est surtout faire une croix sur sa carrière pour les jeunes, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on constate, c'est que c'est surtout les jeunes qui syndiquent plus aujourd'hui, donc qui remettent même en cause le syndicalisme.
Mais justement, Manu, que tu as cité tout à l'heure, Eric, et qui nous a quittés, donc tu l'as cité parce qu'il nous a quittés, disait qu'effectivement, il fallait pas se borner, il fallait justement lutter pour que ça soit pas une fatalité d'être syndiqué, et être stigmatisé et mettre une croix sur sa carrière. Donc il fallait aussi se battre contre cette idée et contre cet état de fait, même, on peut dire. Après, c'est pas simple.
Tu vois bien.
Non, je le vois.
Tu es dans ton entreprise tous les jours.
Dans mon entreprise, hein. Enfin, pas tous les jours, parce qu'on parle pas que de ça, mais c'est vrai que, bon, là, en ce moment, il y a par exemple, la réforme des retraites. Ça interpelle aussi les jeunes, les trentenaires. Ils se disent, bon, ils ont tous été voir, d'ailleurs, sur le site de la CNAB pour savoir. Quand est-ce qu'il serait éligible à la retraite, etc. Oui, parce que tout de suite, les nouvelles générations, c'est ça. Ils ont le déclic, ils ont tout de suite le réflexe d'aller sur Internet, d'aller chercher l'information. Et donc, ça aurait pu déclencher, effectivement, des...
Prise de conscience.
Prise de conscience, de se dire, oui, c'est vrai qu'il faut défendre nos droits, il faut être représenté, etc. Mais, en même temps, il y a le mais, si on fait grève, par exemple, je dis, pourquoi vous faites pas grève, vous déposez une demi-journée, et hop, vous descendez dans la rue pour revendiquer. Vous faites entendre votre voix, et là, c'est, ah ben non, parce que si on fait ça, alors demain, on est remercié, ou peut-être pas demain, mais après-demain. Enfin, en gros, ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur leur carrière.
Sur leur emploi,
directement. Alors après, tu peux dire, ah oui, mais non, mais tu peux te dire que tu prends ta demi-journée, tu peux tricher, ne pas dire la vérité, mais bon, en même temps, tu te dis, tiens, c'est bizarre, tu prends ta demi-journée demain, le 31, l'après-midi, tu vois ce que je veux dire?
Et qu'ils prennent le matin.
Du coup, si tout le monde fait ça, alors, peut-être que si tout le monde faisait ça dans l'entreprise, ça aurait un impact, mais c'est pas le cas, tu vois, j'entends toujours, ah oui, mais non, mais en plus, j'ai pas les moyens, moi, de prendre une demi-journée.
Ce qui est faux
la plupart du temps, mais ils trouvent ça comme argument, quoi, parce que ils savent qu'il faut s'engager, ils savent qu'il faut se défendre ses droits, ils savent très bien tout ça. Mais il y a toujours le frein et je pense que le principal frein, c'est la peur de faire une croix sur sa carrière, en fait, et de la peur des conséquences. Ça, c'est la peur, en fait, qui c'est pas forcément de mettre la main au porte-monnaie.
La première des craintes,
c'est ça.
Et c'est là, surtout, moi je pense que au-delà de la aussi il y a une partie, oui, que ça arrange bien, mais c'est la crainte de sortir du rang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es dans la masse, on te voit pas, on te voit pas, donc on ne casse pas les pieds. Enfin, pas tout de suite.
Oui, c'est ça.
Là, c'est ça. C'est.
Il faut prendre en compte aussi, effectivement, toutes les études qui ont été faites par Solomon H, par exemple, sur le conformisme. Mmh. Et effectivement, les gens vont pas vouloir sortir de, vont pas vouloir se démarquer. Donc, je vais pas faire la démarche d'être représentant du personnel ou délégué syndical. Donc, effectivement, il y a que vraiment les militants, les personnes qui ont déjà des arrière-pensées révolutionnaires. J'exagère un peu, mais qui vont se lancer dedans.
Ah, puis alors, je voulais parler aussi, si je peux continuer à prendre la parole, de la fameuse théorie du passager clandestin.
C'est quoi ça?
Alors, c'est le problème des syndicats en France, c'est qu'en fait, on peut très bien bénéficier des avantages que procure le syndicat, avec les avancées sociales, etc., mais sans s'investir dans la cause. C'est-à-dire, donc, il y a un économiste qui a donc découvert cette théorie et qui a appelé ça le passager clandestin. C'est un économiste américain, Manco Rolson, l'un des principaux contributeurs à la théorie des choix publics. Donc, qu'est-ce que c'est le passager clandestin? C'est une personne qui n'adhère pas sans payer ou sans participer, sans cotisation. Ça peut aussi être valable dans les associations, etc. Il continue à accéder donc à toutes les bénéfices que procure le syndicalisme, à toutes les avancées sociales, mais il se met pas en avant et il cotise pas. Voilà, ça s'appelle le passager clandestin. Et c'est le principe de la France, c'est ça. C'est que si tu te syndiques pas, de toute façon, même si le syndicat obtient des avancées sociales, t'en bénéficies aussi, tout le monde en bénéficie, en fait.
Ah oui.
Voilà. Bah oui, mais c'est pas comme ça ailleurs. Dans les autres pays européens, c'est pas comme ça. Si tu veux bénéficier des avancées sociales, des augmentations de salaire, etc., et beaucoup d'un, à ce moment-là, faut te syndiquer. Voilà. Et si tu te syndiques pas, eh bien, tu n'as pas. Et on a remarqué ce phénomène en France, et qui fait que, ben, ça aussi, c'est un frein à la syndicalisation.
C'est ce que tu dis. Deux choses.
On se met pas en avant. Voilà.
Deux choses, pour la différence avec des syndicats d'autres pays, on pourrait y revenir.
Bon, après, je peux en parler.
D'abord, nous, en France, il y a quand même la liberté syndicale, le libre droit d'adhérer au syndicat qu'on veut. Dès que tu dois adhérer à un syndicat pour bénéficier des avantages, des négociations faites par ces syndicats, la liberté, quand même, en prend déjà un coup.
Oui.
Donc, et je crois que ça se passait en Allemagne. Alors, j'ai pas révisé du tout aujourd'hui. Je vais faire de mémoire. Et je me suis endormi. Après, j'ai fait la vaisselle.
la condition ouvrière.
Oui. Et puis je crois qu'en Allemagne, si tu es adhérent au syndicat signataire d'un accord, tu bénéficies des avantages sociaux. Alors, comme on sait que la plupart des syndicats, tu me diras, c'est comme ça en France aussi, mais tout le monde en bénéficie, mais comme souvent ce sont les syndicats qui ont le moins de revendications et qui peuvent être majoritaires, parce qu'effectivement ils vont signer plus souvent et qui ont le meilleur rapport, ce sont des partenaires sociaux avec les patrons, toi, si t'es dans un syndicat révolutionnaire, parce que tu as des convictions, parce que tu veux autre chose que des miettes, tu bénéficies pas des augmentations, alors que les autres, qui sont quelque part des passagers clandestins, parce qu'en fin de compte, ils sont pas plus actifs que les autres, sauf qu'ils adhèrent, mais ils sont pas plus actifs, eux vont bénéficier de 0,1% d'augmentation, alors que le syndicat révolutionnaire, il en demandait 4. Mais du coup, le révolutionnaire, il aura rien du tout. Ça remet en cause. En plus, tu vas avoir donc dans l'entreprise des disparités de salaire entre les uns et les autres. Il y a quand même quelque chose qui va pas, moi. C'est ni démocratique, ni libéral, mais dans le sens libéral dans le sens économique et capitaliste. Il y a un problème quand même.
Disons que ça renvoie à un autre type de un choix d'un autre syndicalisme. Et d'un autre type de société, c'est-à-dire que là on est, alors c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour un certain nombre de pays nordiques, d'ailleurs scandinaves notamment, ça a été vrai aussi en Angleterre, sauf que maintenant aujourd'hui les syndicats anglais sont
il n'y en a plus.
sont moins puissants qu'ils ne l'ont été jusque dans les années 70. Les syndicats anglais étaient très puissants parce que massifs. Mais parce qu'il y avait une obligation. Tu rentrais dans une usine, tu rentrais dans une mine, tu rentrais dans un service public. Tu étais forcément la première chose qu'on te proposait après le contrat, c'était d'adhérer au syndicat puissant pour bénéficier justement. C'est le trade unionisme pour bénéficier et forcément le syndicat n'en sort que plus puissant et c'est un acteur majeur de la vie sociale. Simplement, pour qu'il soit acteur majeur, faut qu'il fasse des concessions. C'est-à-dire qu'il soit dans la gestion de l'outil, dans la gestion des masses, dans la gestion de tout. Donc c'est de la co-gestion. Alors ça, c'est pas le principe. Alors, en venant au studio, on en discutait dans le métro, et c'est vrai que historiquement, en France, on n'a pas cette tradition de la concertation, de la on a une tradition plus frontale, plus. D'ailleurs, Marx a parlé de lutte des classes, mais c'est en France que la lutte des classes, à mon sens, historiquement, a été la plus remarquable. Même si c'est pas, on n'est pas à l'origine, c'est pas là où il a puisé ses premières expériences pour théoriser. C'est le pays le plus exemplaire en termes de lutte des classes, parce qu'il n'y a pas d'affrontement. Et ça date pas. Je parlais de la Révolution française dans le métro, mais c'est antérieur. Je veux dire, les jacqueries, toutes les révoltes populaires, je pense au bonnet rouge en Bretagne, même si c'est d'ordre fiscal, il y a une montée de la violence parce qu'à un moment donné, le peuple est tellement opprimé, que ce soit localement, régionalement ou nationalement, que la seule voie d'expression de sa souffrance, c'est la violence physique. Et donc c'est on va brûler les châteaux, on va renverser les bourgeois cul par-dessus tête, ouais, on va couper des têtes, enfin voilà, il se passe des choses. Il y a une tradition, et là peut-être me rejoindre, mais il y a une tradition assez blanquiste, en tout cas d'un point de vue anthropologique, il y a une tradition assez blanquiste dans le syndicalisme français, même si tout le monde n'est pas blanquiste. Ouais, c'est encore
non, mais c'est des choses qui sont restées, sont ancrées et restées. Et qu'on peut pratiquer sans en avoir conscience.
Voilà.
C'est comme l'anarchisme, la plupart des gens bénéficient ou agissent comme de certaines manières, et alors que ce sont des traditions anarchistes, propres aux anarchistes, mais ça a été tellement dilué que personne ne le sait.
Et l'exemple que tu citais, Martine, sur effectivement, là on est en Allemagne, on est dans une effectivement. C'est très structuré, en fait, c'est un syndicalisme très policé, et c'est un syndicalisme qui a été co-construit avec le patronat allemand, et qui a été aussi adoubé par l'État, en tout cas les différentes formes de l'État. Bismarck avait rien contre le syndicalisme. Il fallait savoir quel syndicalisme il autorisait, parce que pour lui, la production allemande devait l'emporter sur toutes les productions, et pour ça, il avait conscience que on ne peut pas tout donner au patron, il faut que le patron partage. Mais pas un partage équitable, pour que ce partage se perpétue, il fallait créer cette co-gestion, en fait, et donc ce lien d'interpénétration entre les revendications ouvrières et les souhaits patronaux de faire du pognon et de s'enrichir. Donc, effectivement, il fallait donner un peu pour continuer à s'engraisser. Mais ça a bien fonctionné dans un modèle social qui est un modèle quand même assez assez particulier aux pays germaniques et aux pays du Nord. On n'a pas... et même la France ne s'inscrit pas dans un modèle méditerranéen parce que c'est lié à notre industrialisation, c'est lié à une culture qui est quand même assez, assez spécifique. J'en reviens sur l'idée que loin de cautionner quoi que ce soit chez Emmanuel Macron, mais quand il dit que les Français sont ingouvernables, derrière ça, il n'y a pas simplement le mot qui va choquer, qui va faire se révolter, si je puis dire, entre guillemets, les journalistes, hein, choquer ce monde de, le monde de, ce monde de bon à rien. Effectivement, les Français sont au sens où on est toujours à, même si on fait un choix, on a toujours un choix avec un retrait, un recul. C'est-à-dire que, ok, on veut bien des institutions, mais faut pas qu'elles nous fassent chier. On vient bien de l'ordre, mais enfin, s'il y a un peu de bordel, ça gêne pas. Par contre, si on veut pas de bordel, faut un peu d'ordre. Enfin, on est toujours dans un, en fait, dans une, la recherche d'une harmonie, je dirais, plutôt qu'être ingouvernable. Une recherche d'une harmonie qui est jamais satisfaite. Et
une équité aussi. C'est ce qui caractérise les Français, bah c'est-à-dire leur besoin d'équité.
Mais c'est difficile.
L'idée de ne pas être égal, égaux avec les autres. Quoi.
Ben voilà, c'est ce que disait Fabrice. C'est l'égalité de traitement, c'est l'idée d'une liberté partagée. Et ça, c'est pas facile pour un gouvernement bourgeois de comprendre que lui, il a compris. Je pense que c'est un type intelligent. Simplement, il a autre chose dans la tête. Et puis, de toute façon, il est piloté par son groupe bancaire, enfin ses copains banquiers. Donc, on n'obtiendra jamais plus rien de ce type-là. Et puis, c'est dans sa structure mentale.
Oui, voilà, dans son éducation.
Moi, je pense que là,
gagner de l'argent, c'est valorisant, alors que les Français, non.
Mais pour son analyse,
pas que gagner beaucoup d'argent, c'est valorisant.
Pour son analyse, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'on n'est pas gouvernable, mais pas aussi de manière simpliste que j'ai pu lire dans la presse. Mais pareil, les journalistes. On fera une émission sur les journalistes un jour. On en attachera un ou deux là, sur une chaise, qui en collera des baffes jusqu'à ce que. Parce que j'ai plus de.
Il n'y a pas ça du Jean Weber.
Tiens. Le casque scotché autour du crâne. Oh. Mais tout Jean Weber, toute l'œuvre. Fabrice, j'ai commencé à compiler.
Attention, il était acteur aussi.
Ça fait souffrir. Oh, bon, les longues tirades. Hop. Et on les laisse 3-4 jours dans le studio.
Tiens, on va se faire une petite pause là, ça va détendre tout le monde.
Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no greater power anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong.
It is the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, it's the wonders we have made, but the union makes us strong. Single wheel can turn. We can break their haughty power. Gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of armies. Magnified a thousandfold, we can bring to birth a new world from the ashes of the old. For the union makes us strong.
Eh bien, vous venez d'entendre Tom Morlow au sein des Night Watchmen. Le morceau s'appelle Solidarity Forever. Vous avez peut-être reconnu le thème, mais effectivement, ça a été repris. C'est des chansons. C'est une chanson qui dirait d'un vieil air folk américain. Je vous demande si ça vient pas de Garland, même d'ailleurs. Et en fonction des paroles, eh ben, c'est soit un chant abolitionniste pendant la guerre de sécession, soit un chant. Je crois que Churchill, j'ai vu ça, Churchill et Reagan se sont enfin enterrés sous ce chant. Alors, pas avec ces paroles-là, en revanche. ces paroles-là ont été écrites par. Par qui donc ? Par Ralph Chaplin, voilà, pour les Industrial Workers of the World, et Tom Morlow, et qui est toujours, je pense qu'ils sont reformés, le guitariste de Rage Against the Machine, fait partie des IWW. Voilà. Et cette chanson, pour ceux qui vont aller à la manif demain, avec la CNT, si vous arrivez suffisamment tôt, vous aurez sans doute la version française chantée par la chorale du Sub syndicat niché du bâtiment de la CNT. Mais c'était assez bien fait. J'ai entendu une fois, ça. Mais là,
une chorale.
Mais là, non, c'était bien.
Une chorale.
Oui. Une chorale.
En live. Ils arrivent avec leurs instruments.
Et voilà, une guitare et puis deux, trois chanteurs.
Mazette.
Oui.
Mais, c'est du spectacle vivant.
Bah, c'est toujours mieux que les chansons à la con de Sud, là.
Oh là, quelle horreur.
Sud Santé, là. C'est tout juste, c'est pas du Francky Vincent qui nous ont servi. Okay. Bonjour pour, ah, bravo! Bonjour,
alors.
Bravo!
Petit aparté avant de redonner la parole à Martine sur l'aspect européen, qui est la deuxième partie de l'émission. Des éléments qui vont nous permettre d'aborder l'aspect européen. Petit retour, aparté sur la manifestation. Pitié, il faut des slogans politiques. C'est pas une fête, on est en lutte. Alors ça peut être bon enfant, mais les slogans doivent être politiques.
Oui, mais ça c'est pour la CNT. Mais dans les syndicats où effectivement, et là on fait le lien avec ce que disait Martine, où les... Arrête de taper sur la table.
Pardon.
Ouais, t'as tampon d'une, hein, c'est GT.
Ça, on entend. Ouais.
Ah oui, on entend, oui. Ah, déjà qu'il y a des grésillements apparemment à l'antenne. Que disais-je ? Oui, bah les adhérents au syndicat qui viennent pour du service, bah oui, on comprend qu'ils viennent aussi faire la fête dans les manifs. C'est ce qui fait tout le distinguo entre les syndicalistes révolutionnaires et les camarades qui sont avec nous, l'AFA ou des organisations comme ça révolutionnaires. Voilà, c'est pas Francky Vincent.
Oui, je pense que ça. On est. Non, c'est pas festif. Une manifestation, une revendication sociale, c'est pas festif. Moi, j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de faire de la musique. Il y a des temps pour ça. Enfin, je veux dire, on peut se voir entre amis, chez soi. Moi, j'écoute un peu de musique. Ici, on en passe parce que ça permet de. Les respirations entre nos prises de parole, mais pas en manif, quoi. Pas en manif. Et voilà, je pense qu'on est, y compris dans les grands, dans les, alors nous sommes modestes numériquement, mais sur les grands cortèges, je pense à ton syndicat, enfin à ta confédération, pas à ton syndicat, ta confédération CGT ou à d'autres, je pense que oui, réinvestissez, vous qui avez de la résonance, en tout cas dans l'espace, réinvestissez avec de vrais slogans politiques, sociaux. Je crois qu'il faut. C'est une façon aussi de rompre avec une espèce de la marchandisation du syndicalisme. Parce que le syndicalisme est un service. C'est un peu ce que tu disais de me dire à l'instant. On vient du service, on vient faire un peu de. Alors, il faut pour attirer les adhérents pas trop virulents, pas trop politisés. Alors si on leur met du machin chose, du zouk ou je sais pas quoi, ou du tam tam, ou on fait des voltigeurs, ouais, mais on n'est pas à la kermesse là. On n'est pas à la kermesse. Moi, ça me file des boutons. Je vous le dis tout net. Hein. Ça me file des boutons. Et c'est un peu aussi pour ça que parfois, alors j'ai pas de regrets moi dans la vie de manière générale, mais par contre des fois je me dis je me suis planté quand même. Je suis venu à des manifs où c'était vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, il est temps de passer à autre chose. C'est de maturité. On fait pas sérieux, on n'est pas pris au sérieux et si on n'a pas un discours. Alors je dis, d'accord, la politique, c'est pas la vraie politique, celle qu'on avec des idées sociales, économiques pour défendre des causes. Bah c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Terminé, voilà. Faut faire les choses sérieusement avec des vrais slogans. Puis faut être efficace, quoi. Il y a le souci d'efficacité. Les patrons, ils sont efficaces dans les conneries, dans leurs décisions qui nous pourrissent la vie. Ils sont très efficaces.
Alors ils ont le pouvoir aussi avec eux que nous on n'a pas. Ah oui, par des lois. Ça passe à l'Assemblée quand ça passe pas.
Ah bah parce que faut les. Bah parce que. La dernière fois que j'ai voté, à mon avis. Il n'y en a pas. Donc,
il n'y a pas eu de première fois.
Pour élire, c'est trop de balles, franchement.
Oui, je sais, c'est ton.
Mais oui, mais c'est ça. C'est, on ne peut pas avoir des revendications et en même temps être. C'est des schizophrènes, la plupart des salariés qui n'adhèrent pas à un syndicalisme de combat avec des idées claires. Voilà, tu peux pas élire d'un côté et puis te dire bah non, il nous fait une loi pas bien. Ça me pique. Bah oui, ça te pique, mais t'as voté, t'étais content. Oui, mais c'était pour lutter contre le fascisme.
Oui, c'est ça.
Ou t'as vu que tu luttais contre le fascisme parce que t'as mis un bulletin dans l'urne. Je te rappelle d'ailleurs, on est le 30 janvier 2023, il y a 90 ans, un anniversaire un peu terrible, c'est par les urnes. Hein.
Ouais. Peut-être le dire. Ouais. Moi, je sais ce qui s'est passé il y a 90 ans, mais les auditeurs le savent peut-être pas.
C'est par les urnes, hein, je suis désolé. Mais alors, donc, la démocratie élective, ça sert pas à grand-chose. Quand t'es manipulé, puis quand t'es là, essayer de trouver un sauveur, un type qui est...
Le syndicalisme s'est vidé de son sens en France et dans d'autres pays comme le Royaume-Uni parce que des lois sont passées. Par Madame Thatcher et ensuite on a eu aussi notre lot là dernièrement en 2016 avec les lois Macron qui ont vidé de son sens l'idée même du syndicalisme. Dans la mesure où maintenant c'est. C'est pour ça que les. En fait, c'est peut-être aussi pour ça que les personnes vont plus voter, tu vois, que le taux de vote a baissé terriblement, la participation a baissé, etc. Parce que ça va ensemble. Parce que les Français ont mis trop de passion dans ces élections présidentielles en se disant, c'est lui qui va nous sortir de là, etc. Mais non, en fait, contraire qui s'est passé, en fait.
Non, parce que...
Niveau des droits, on a perdu beaucoup de droits à cause de ces lois Macron, si on peut. On va pas les répéter là.
Avant,
et même avant,
Sauf que les Français font de la politique simplement en mettant un bulletin dans l'urne. Oh putain, j'ai été voté, j'ai pris
mais
ma responsabilité. Attends, les démocraties, il y en a qui sont morts pour le droit de vote. J'en connais davantage qui sont morts du cancer que morts pour le droit de vote.
Ouais, je sais pas où vous avez été chercher ça, moi, pour le droit de vote. J'entends toujours ces conneries. Ouais. On s'est toujours posé la question.
C'est vrai.
Comme on a du travail. Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Comme quoi tu leur mets une idée dans la gueule et puis ils te la ressortent comme un prêtre mordre. Non, il n'y a pas eu de mort pour le droit de vote. Parce que de toute façon, même si on vous l'enlève, le droit de vote, vous n'allez pas sortir dans la rue parce que de toute façon, vous chiez dessus les votards. Mais c'est une réalité.
Exactement.
C'est tout. Voilà. Les seuls qui sortent dans la rue, c'est des gens comme nous. Les gens qui écoutent Radio Libertaire. Tous ceux qui disent, je vais aller voter au municipal, au présidentiel, au machin. Voilà. Ils ont fait leur devoir de citoyen. Mais des citoyens. Je vais rester poli. Non, t'es plus citoyen de rien du tout. C'est pas ça que je voulais dire. T'es beaucoup plus vulgaire.
Mais on se tient maintenant. C'est une émission de grande tenue.
Ah oui. On essaye. Ah oui.
Alors, et ces chiffres européens, Martine?
Oui, alors parlons vite des chiffres. Alors. Tu parlais de l'Allemagne, Fabrice, taux de syndicalisation en Allemagne est 18%, donc les sources, là, c'est source observationsociété.fr. C'est pas tant que ça, parce que ceux qui arrivent en tête, c'est toujours les premiers de la classe. Donc c'est les pays scandinaves avec 74% en Finlande, 70% en Suède, 67% au Danemark, 52% en Norvège. Là, c'est nous. Ouais, nous, on est dans le peloton de queue. Dernier, 8%.
Ouais, bien
8% et ça, c'est
alors,
des
les estimations,
chiffres,
alors,
qui datent un peu.
Ça date.
C'est moins maintenant.
Ça date, et puis ça dépend où ils vont les chercher. C'est très difficile de pouvoir comptabiliser le taux de syndicalisation. Même si Eric tout à l'heure a dit à la CNT, on n'est pas très nombreux, eh ben, on a quand même du mal sur l'année à faire une comptabilité, parce que tu en as qui arrivent au cours, cours d'année, t'en as qui partent en cours d'année, t'en as qui viennent pour un mois, deux mois, trois mois, t'en as qui sont là pour 20 ans. Oui. Dans toutes les, non, mais je veux dire, déjà, sur un petit effectif comme le nôtre.
Bien sûr.
C'est-à-dire, 55 000 adhérents à CNT. C'est une blague. Les plus nombreux.
Oui, mais enfin, bon, ça donne des chiffres.
T'as déjà du mal à trouver.
Intéressant, alors, quand même.
Je sais que le. C'était comme ça il y a 20 ans, de toute façon.
Oui.
On estimait que c'était 6% taux de syndicalisation. Mmh. Et c'était.
C'est privé, ça, Fabrice.
Oui,
mais c'est parce que c'était pris sur, grosso merdo, des chiffres du public. Mmh. Je me rappelle, on en parlait avec Timène, c'était notre avocat à l'époque. Mmh. C'est. T'as beaucoup de mal à savoir combien dans le privé, déjà d'une part, t'as un taux de syndicalisation. Donc tu te bases, tu prends comme référence de toute façon le taux de syndicalisation dans le public. Et. Même ça, tu sais pas trop. Tu peux pas avoir un chiffre exact. Donc c'est une estimation.
Bah, dans mon établissement, très clairement, on est à 7%, 7-8%. 7%, quoi. Ouais. 7%, c'est pas énorme. On colle assez 6, 7, 8 dans le secteur privé, hein.
C'est même 5% maintenant, je crois, dans le secteur privé, ça a terriblement baissé. Hein, ouais. Les jeunes ne se syndiquent plus du tout.
Ils ne sont
plus du tout motivés. Hein.
Attention.
Oui.
Après, la Finlande n'est pas en Scandinavie.
Oui. Ah, pardon. La Finlande n'est pas en Scandinavie. Alors, c'est parce que j'avais. En fait, j'ai pas parlé de la Belgique non plus.
En
Belgique et dans les pays scandinaves, les syndicats sont impliqués dans les systèmes d'assurance chômage et dans la distribution des allocations, ce qui n'est pas le cas en France. On a perdu ça aussi quelque part. Je sais pas, toi qui as fait de l'histoire, l'histoire du syndicat en France.
Tu peux, Eric.
On a perdu beaucoup de prérogatives. J'imagine que l'État a pris, ou que même maintenant les CSE prennent sur les syndicats. Tu vois.
Ah, bah, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait.
Aujourd'hui, le CE qui a été remplacé par le CSE en 2018, enfin, progressivement, depuis 2018, au gré des élections, tu peux très bien avoir un CSE absolument vide de syndicats. De syndicats qui, dans la gestion de la quincaillerie, des voyages, des vacances, des machines de loisirs à la mort moelleux pour décérébrer. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que c'est une prise de position. Mais, disait plutôt Pierre Bénard. Bon, je plaisante, mais.
C'est pas une blague, non.
Non, mais voilà, c'est il y a un moment donné, on gère l'épicerie. Et ça, mais il n'y a pas besoin de syndicat pour ça. Mm. Et je dirais même qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Il ne faut pas qu'il y en ait, parce que ça décrédibilise le syndicat. Alors si le syndicat était tout puissant, et le syndicat ouvrier était tout puissant, et gère ça en plus, je dis pourquoi pas. D'abord, on le gérerait différemment. Ça veut dire que on essaierait de négocier des mutuelles, des mutuelles complémentaires, peut-être aider.
Ça aussi, l'État a pris ça. A fait voter une loi pour dire que la mutuelle et la complémentaire est obligatoire dans les entreprises. Moi, ça, c'est pareil dans les syndicats, comme par exemple, je prends comme exemple.
Martine, quel est le droit de regard du CSE lorsqu'il y a un choix de mutuelle par l'employeur? C'est son choix souverain.
Oui, c'est ça.
S'il n'est pas bon,
alors tu peux dire non.
Moi, pour les dents, parce que j'en ai plus. Alors lui, un petit peu plus. Ah bah non. Hey Jean-Paul, tu déconnes.
Il y a quand même une consultation générale.
Ils en tiennent compte.
Il y a une consultation.
C'est comme celle dont j'ai parlé dans ma chronique.
Alors, mais là, effectivement, où le. Là, ce qui a été introduit par Macron avec les CSE, et qui va à l'encontre du syndicalisme, c'est le fait que le CSE puisse négocier des accords d'entreprise.
Exactement.
Alors, quand des membres du CSE ne sont pas syndiqués ou ne sont pas révolutionnaires, tout simplement,
ils sont pas...
négocient des accords d'entreprise, d'établissement ou d'entreprise, waouh, ça peut faire mal. Mmh. Surtout que les accords vont primer sur le droit, pas le droit universel, mais
le droit général,
ça peut, tu peux avoir aujourd'hui des accords qui vont en deçà du code du travail et qui vont être appliqués dans l'entreprise. Waouh, ça fait peur quand même.
C'est ça. Ouais, ça fait peur. Ouais. Bah, c'est une régression. Bah, d'où le désintéressement du syndicalisme, c'est logique. C'est logique que les jeunes ne se syndiculisent plus parce que de toute façon, comme ils ne vont plus voter, parce que de toute façon on a l'impression que le pouvoir est vertical et une personne décide de nos vies, quoi, en fait. Une dizaine de j'aime bien quand les journalistes disent quelques syndicalistes bloquent le pays, etc. On oublie aussi dans l'autre sens de dire quelques politiques
pourrissent le pays,
pourrissent
nos vies,
pourrissent nos vies, quoi, en fait. Décident pour nos vies, en fait. C'est ça qui est incroyable. Dans ce sens, on n'entend jamais parler.
C'est incroyable. Justement, on va parler de retraite, je veux dire ce que j'entends aussi sur les autres radios, malheureusement. Mais c'est parce qu'on estime que, un président qui va être élu avec 20% des inscrits et représentatif de, je sais pas, 67, 77 millions, je sais plus combien on est en France. 77
70,
millions.
70, non,
70. Ouais, 70 millions. Donc ce mec-là est élu avec 20% d'inscrits, c'est pas 20% de la population, va être représentatif pour toute la population et il va prendre des décisions et en plus élu, parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure, parce que il était face à Madame Le Pen, face au fascisme.
Une élection de circonstance.
Et ce mec-là, il t'impose tout un tas de
contraintes,
de lois, de contraintes
tout aussi fascistes
qui vont favoriser. Pour moi, oui. Alors là, tout carrément. Le fascisme, maintenant, c'est plus avec des bottes et puis un uniforme. Comme disait George Orwell, c'est avec un chapeau melon et puis un parapluie sous le bras. Non, mais c'est ça. Bref.
Non, mais c'est pas bref, c'est ça.
Il y avait un autre truc que je voulais dire aussi, je sais plus ce que tu...
En même temps, François Hollande, il a été...
Il a un parapluie aussi.
Il a été élu
en
faisant le contraire de ce qu'il nous avait promis, quoi. Ça, c'est incroyable, quoi.
Mais oui, mais c'est ça.
C'est incroyable. C'est lui, les lois Macron et tout ça.
C'est peut-être là où je voulais en venir. C'est que, oui...
Ça n'a rien à voir avec la peur du fascisme.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mais effectivement, une fois qu'on a élu ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, déjà d'une, donc la preuve, et ils font souvent l'inverse de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont promis pour se faire élire.
Au nom de leur légitimité, soi-disant.
Ouais, ouais.
Ce que tu disais.
Et j'ai reperdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, mais... Là, moi, quand je l'ai, faut que tout le monde s'arrête pour que j'y aille, parce que sinon, si je m'engouffre pas, ça va être fini après. Ça. Non, mais c'était la légitimité t'as dit un truc. Ah oui, voilà, pour les syndicats et les hommes politiques. Les hommes politiques sont élus, donc c'est normal, voilà. Quel que soit le taux de bulletin de vote pour eux, c'est normal. Mais un syndicat, c'est pas la même chose. Il est pas élu, t'es citoyen, mais t'es pas dans le gouvernement, t'es à part, t'es quelque chose t'es pas dans la vraie politique. Donc oui, tu vas pas être pris en... Tu vas être dénigré par les journalistes. C'est quelques syndicalistes qui essayent de bloquer le pays.
Oui, c'est ça.
Mais d'abord, c'est pas quelques syndicalistes, parce qu'en général, il suffit pas que le secrétaire d'un syndicat claque des doigts pour que les gens se mettent en grève. En général, c'est pas comme ça.
C'est la base.
En général, voilà, tu le décides au niveau de la base, et puis les syndicats suivent.
J'ai entendu dire... je l'ai lu, je sais plus quelles sont mes sources... que Emmanuel Macron avait demandé à sa première ministre d'étudier un dispositif pour justement empêcher la base de se rebeller sans le syndicat. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui se mettent en grève comme ça, comme la SNCF en décembre, pendant les vacances scolaires, qui ont décidé de faire un mouvement qui venait de la base sans, sans soutien du syndicat, ne seraient plus autorisés à se soulever. En fait, c'est hallucinant. Il a demandé à son premier ministre de réfléchir à un dispositif. Donc ça, ça veut dire dispositif, loi, ça veut dire etc. Voilà, tu vois.
Mais son successeur.
Faut pas être étonné.
Même la base. Non, mais tout, c'est un pouvoir vertical, qu'on fait.
Mais c'est pas bien, c'est du fascisme.
C'est le pouvoir et vertical.
C'est toi qui le dis. Hein.
C'est du fait. Oui, mais je le dis, je l'affirme. C'est une forme de fascisme et un fascisme, mais sans le folklore. Mmh. C'est-à-dire que c'est une espèce de dictature qui est une espèce de dictature molle pour l'instant, mais dont on petit à petit qui tisse un dispositif. Aujourd'hui, tu dis insurrection, t'es passible de prison. Mmh. L'insurrection aujourd'hui est condamnable. C'est un truc de dingue. Quand, alors, je veux dire, 1789, 1830, 1848, la Commune de Paris, c'est plus possible. Au nom de quoi ? Bah, au nom de quoi ? Qu'on me réponde. Au nom de quoi ?
Au nom de la démocratie.
Mais ça serait intéressant.
Mais il faut que ça se prenne, ça. C'est, ça se prend.
Finalement, cette loi serait peut-être intéressante dans la mesure où ça pousserait les salariés qui veulent se rebeller à se syndiquer.
Bah
en
non,
même temps.
Ils vont les syndiquer où ? Chez les syndicats qui lâchent le cul du patronat ?
Oui. Ah, parce que c'est une vraie force quand même.
C'est pas une vraie force.
Quand tu te présentes, par exemple, Prud'homme, par exemple, que tu n'es pas syndiqué, que tu n'es pas t'as pas de représentativité, ben, t'as pas le même poids vis-à-vis des juges. Un salarié non syndiqué.
Tu vois, imagine Martine, les gilets jaunes, s'ils avaient dû passer devant demander
laisse-moi finir.
S'ils avaient dû demander l'autorisation à des grandes centrales syndicales pour faire une manif, mais on les aurait jamais vus.
Et on les aurait jamais vus, c'est vrai.
Voilà. Donc après, t'as des mouvements populaires. C'est pas pour valoriser les mouvements des gilets jaunes, mais on peut pas leur enlever ça. Ils ont quand même, il y a eu une émulation. Ils ont quand même créé quelque chose qui va peut-être nous servir plus tard. Je sais pas, mais ils ont au moins eu le, pour eux, d'avoir eu la liberté de s'organiser, de se réunir et de contester. Mmh. Bah ouais, si on commence à dire, ben, faut demander l'autorisation à la CGT, à la CFDT. Non, tu fais quoi ? Faut t'en slinguer tout de suite. Hein. Ouais. On a le droit de dire se flinguer, on va pas aller en prison ou on va pas te condamner.
En ce moment, c'est un sanglier.
C'est un peu paramilitaire quand même.
Non, mais c'est ça, c'est que, soit c'est le bâton de la force publique, soit c'est rentrer dans rendre un syndicat toléré par les pouvoirs publics qui décident. Par le pouvoir exécutif qui décide. Alors, d'accord, le fascisme s'est connoté historiquement, je vous dirais pas le contraire, mais. On est dans l'absence de liberté ou dans la réduction drastique des libertés, de l'espace des libertés. C'est ce qui caractérise les Français, de toute façon. Alors, je parle de la France, on ne sait rien, parce que c'est un truc qui est à géométrie variable, qui existait différemment dans le temps, mais les Français, en tout cas, depuis au moins depuis 250 ans, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas insensibles à leur liberté, même si elles sont paradoxales, si elles sont... Qu'en penses-tu ? Et tu nous as parlé de... Oui, je nous ai parlé de...
Les différences dans les pays européens, bah oui. Alors la différence, c'est que les modalités sont très diverses, mais ça, tu vous en avais parlé. Il y a un réseau de mutuelles, des banques, des coopératives d'achat ou de distribution, des assurances, qui rendent plus attractive en fait l'adhésion au syndicat, dans la mesure où tu en bénéficies si tu te syndiques. Après, par exemple, au Danemark, il n'y a quasiment pas de code du travail. Bon. Donc les syndicats ont une place importante. Tu vois. Et donc ils sont respectés par les salariés, ils leur donnent leur confiance. C'est chaque pays
Nous, les syndicats israéliens, c'est pas ce qu'on veut, de la confiance. Nous, on veut éduquer les gens pour qu'ils soient conscients de leurs droits, de leurs moyens d'action, de leurs capacités politiques.
Puis qu'ils soient autonomes.
Qu'ils soient autonomes. Et c'est pas de dire, hey, faites-nous confiance, là, comme K, le serpent dans le livre de la jungle de Walt Disney.
Parce que c'est vrai que quand tu tombes sur quelqu'un qui vraiment fait en sorte en qui tu as confiance et qui répond, je veux dire, à cette confiance par des choses bénéfiques, ça va. Mais quand tu tombes sur une organisation qui va t'essorer, finalement te museler, c'est un terme de probabilité, c'est assez hasardeux, hein. Il y a un risque. Non, je vaut mieux compter. Alors personnellement, je suis pour que nous, syndicalistes révolutionnaires, on arrive à se développer de telle manière qu'on puisse avoir des mutuelles syndicalistes, qu'on puisse avoir des assurances syndicalistes, des coopératives d'échange solidaire, qu'on mette des transports, qu'on syndicalise les moyens de transport. Enfin, ça, ouais, c'est la mutualisation des richesses, la mutualisation de la production, mais la mutualisation aussi du risque. Enfin, ouais, je pense que ça fait pas ça, c'est l'œuvre du syndicat, mais à une échelle qui est pas encore la nôtre, qui reste un projet. Mais là, c'est un projet global. Ce que je dis, c'est du syndicalisme. La CNT, il est holiste.
Ça reste un projet parce que la société quand même est très individualiste en France, ce qui ressort aussi des statistiques.
Oui.
Beaucoup plus individualiste, je crois, que dans d'autres pays. Hein.
Mais s'y rend les Français, en partie.
Donc ça, c'est un frein à la syndicalisation, au syndicalisme, parce que les gens pensent jeu et pas nous. Et donc le jeu, ça veut dire développement du néolibéralisme, qui prend le pas sur le collectif. Et ça, ça fait écho chez les jeunes générations. Hein. En plus. C'est plutôt la dérégularisation du marché du travail, des carrières hachées, les contrats précaires de courte durée. Donc, quel est l'intérêt de se syndiquer quand tu sais que tu as un CDD? Là, par exemple, tu vois, tu m'as dit, tiens, je suis allée faire les courses, j'ai vu que c'était plus la même équipe. Bon, on va pas citer le nom de l'enseigne, hein. On va pas leur faire de la pub. Mais et je t'ai dit, c'est normal, c'est la précarisation, c'est-à-dire que les salariés ont des CDD. Donc c'est plus la même équipe, là on est une nouvelle année. Alors après ils ont pu démissionner, quand t'es dans la distribution, tu vas démissionner pour aller dans un autre supermarché, c'est le même... Enfin, c'est le même salaire, c'est le SMIC. Enfin,
mais c'est ce qu'ils n'ont pas compris, les salariés.
Donc, parce qu'il y a des entreprises comme dans la nôtre, par exemple, où tu sais très bien que les jeunes qui s'en vont négocier un salaire plus élevé, etc., tu vois, parce qu'ils ont un peu plus de 5, mais pas dans les supermarchés, dans le commerce. Voilà. Donc ça, c'est lié à l'individualisation du marché du travail et la précarité. En fait, je suis presque sûre que toutes ces personnes qui nous ont accompagnés là, dans les 6 derniers mois, quand on était allé dans ce magasin, c'était des contrats précaires, tu vois.
Petite coupure.
Oui. Donc ça aide pas à se syndiquer. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre Schlechterei.
Voilà, vous venez d'entendre Comandantes, je sais pas comment ça se prononce, hein. Prononce, pardon, avec en plus, vous avez compris que c'était en allemand, donc le titre c'est Solidarisch-Tat-Lied.
Eric va nous le prononcer correctement.
Ouais, bah, on s'en fout. Mais de toute façon, c'est...
Lied, c'est un chant.
Hein. Oui, oui, bah oui, c'est un chant de solidarité. Et donc, bah, c'est une chanson révolutionnaire écrite entre 29 et 31 par Bertolt Brecht, voilà, sur une musique de Hans Eisler. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, ou quoique. Et voilà. Bon, c'est pas spécialement sur les retraites, hein, mais c'était sur le...
C'est le coup international.
La grande dépression. Voilà. Et contre la guerre de 14-18. Ce qui en a découlé. Voilà. C'est tout.
Bon, on fait une petite conclusion sur provisoire, hein, sur cette désyndicalisme, cette désaffection des salariés, des travailleurs pour le syndicalisme. J'espère que toujours convaincre mes collègues de au moins de participer aux mouvements sociaux et de prendre conscience que moins on est nombreux, plus on va souffrir.
Alors, il y a peut-être une désyndicalisation, mais on a vu quand même avec la manifestation du 19, qu'il y avait quand même du monde. Il n'y avait pas que des syndiqués. Donc,
oui, exact.
Voilà, c'est plutôt encourageant. Après, il faut aussi peut-être remettre en cause l'action des syndicats. Hein. Quand je dis que les syndicalistes révolutionnaires, ça fait peur.
C'est révolutionnaire qui fait ça.
C'est chronophage,
c'est vrai.
Oui. Bah, c'est révolutionnaire, oui. Ça fait peur, ça te prend du temps, il faut que tu te sortes les pouces du derge parce que, on est autogéré. Ça plaît pas à tout le monde. On a des locaux tout pourris parce qu'on n'est pas financé par l'État, mais c'est un choix aussi de pas l'avoir été. On ne peut pas lutter contre l'État, le salariat et le patronat, et puis vouloir aussi bénéficier, faire des impôts du fruit des taxes sur les travailleurs, ou négocier avec des patrons ou l'État. Donc on a fait un choix, on est pauvre, on fait tout nous-mêmes, et c'est tant mieux. Mais au moins, on a cette éthique qui fait que on est ce que nous sommes.
Je n'oublie pas que l'État est un patron aussi, hein, c'est logique.
Donc, peut-être que les syndicats devraient essayer de se remettre en cause s'il y a une désyndicalisation, une désaffection des travailleurs. Les syndicats n'y sont peut-être pas pour rien non plus. Hein.
Oui, il faudrait élargir l'offre, moi je dis en conclusion. S'inspirer des syndicats dans les autres pays européens.
Moi je suis contre même la CGT. Ah oui. Si on fait comme eux, on mourra, mais c'est la liberté de chacun de faire mourir. Nous on mourra pas.
Non, mais sans forcer, on s'inspire. Je dis pas qu'on copie texto, ce que font les autres. On s'inspire d'eux. Ben, s'inspire d'eux, par exemple. Moi, j'avais pensé dans les toutes petites entreprises, parce que quand même 99% du tissu économique en France, c'est des petites entreprises, des PME. C'est-à-dire des entreprises de moins de 50 salariés. Ça, tu le sais, ça? Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux que les salariés des très grosses entreprises. De plus de 300 salariés.
Les salariés, mais il y a quand même. Salariés, t'as pas, tu peux pas déclarer une section syndicale. Enfin, bref.
Bah, justement, c'est ça qu'il faut.
Et tu crois que c'est comme ça dans les autres.
Ah, en fait, ils peuvent être syndiqués sans déclarer. Parce que le syndicat, c'est pas forcément l'action dans l'entreprise aussi.
Non? Bah, ça devrait être quand même.
Pas que, mais surtout à la base.
Sur le terrain économique, c'est ça.
À ce moment-là, peut-être que si le taux de syndicalisation est plus important dans les toutes petites entreprises de 50 salariés, ça pourrait faire bouger les lignes, quoi, tu vois. Et changer les lois, à ce moment-là. Je sais pas, il faut une motivation, peut-être en leur offrant un service. Après, comme tu disais, des mutuelles, choses qu'ils n'accèdent pas, quoi. Puis de toute façon, ils n'osent pas, en fait, tu vois. En plus, 50 salariés, ça va vite.
Qu'il y ait de la solidarité qui se crée dans les syndicats et qu'on essaye de créer effectivement des mutuelles, peut-être. Des coopératives, des choses comme ça, d'accord. Mais dès qu'on va remettre en cause la liberté d'adhérer à un syndicat pour pouvoir bénéficier de je sais pas quoi. Tu me vois dans une boîte avec un mec, je vais arriver dans une boîte, le type, il nous fait que de la merde, et je vais le laisser négocier avec le patron sans lui foutre mon pain dans la gueule. Ah, ça peut être possible. Ouais, non, mais franchement, je parle d'une petite boîte. Dans les petites boîtes, en général, tu peux avoir des syndicalistes révolutionnaires, tu peux avoir des mecs qui sont formés, hein, qui sont auto-formés, qui ont de l'expérience. En général, ils sont plutôt, c'est plutôt les patrons qui disent hey, tiens, je te paye ta carte, t'y vas, et puis on va faire des accords d'entreprise. C'est comme ça que ça se passe aussi, hein, dans certaines boîtes. Hein.
On est dans des relations interpersonnelles.
Et pas forcément dans des petites, d'ailleurs.
Ouais, on est dans des relations interpersonnelles. On aura l'occasion, je pense, d'une émission sur les fonctionnements des institutions représentatives du personnel, parce que ça en découle. C'est-à-dire que.
On met ça en place.
Ouais, ça en découle.
Oh là là.
En plus, tu peux très bien faire des NAO dans une entreprise de plus de 50 salariés. Moi, je l'ai fait.
Bah, en général, oui. Non.
Oui.
En général, c'est des entreprises de plus de 50 salariés.
Oui, 50 salariés, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de 50 salariés.
Moins de 50, tu étais moins de 50.
Moi, j'étais j'ai moins de 50, c'est ça que je veux dire. Tu peux très bien le faire. Si tu es syndiqué et que ton syndicat te représente étant délégué syndical, tu peux négocier des...
C'est avant, tu avais des délégués du personnel. Effectivement, si l'employeur voulait faire un accord d'entreprise, il fallait que le délégué du personnel devienne et se fasse désigner délégué syndical par son entreprise.
Sens que de dire ça.
C'était ton cas.
Oui, c'était mon cas. Je l'ai fait, ça. Et d'ailleurs, à la limite, j'obtenais plus que maintenant qu'on est dans une entreprise de plus de 200 salariés. J'obtenais plus de... Parce que comme c'était une petite structure de 30 personnes, le manager était sensible. Tu vois, c'était difficile pour lui en réunion plénière de dire « Ah ben non, là je peux pas vous augmenter parce qu'il avait en face de lui 30 personnes. » Là, c'est plus facile pour un manager de dire « Non, vous serez pas augmenté sur le coût de la vie. » Quand t'es en face de 100 personnes, tu vois, c'est pas le même rapport, en fait. Il n'y a pas de paternalisme, etc. Tu vois. Donc, non, il y aurait quelque chose à faire dans les petites entreprises pour motiver les salariés à syndiquer. Ça serait peut-être plus parlant pour le manager de se dire, finalement, j'ai une vraie force. ça, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion.
Eh bien, c'est pas la nôtre.
Voilà. Voilà. Mais comme on est pour la liberté d'expression et qu'on t'aime bien. Hein, camarade CGT.
Infocom
CGT.
Oui, mais c'est très important, le Infocom.
Infocom, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'il y avait quand même... la CGT n'est pas monolithique.
Voilà.
Bon, eh bien, il y a un petit... Non, on a des annonces à faire. Il y a militantes.
Vous avez des annonces que j'ai oubliées, quelque part.
Ah bon?
Bah oui.
Bah, bon, demain.
L'annonce.
Demain. Là,
demain. Qu'est-ce que nous avons?
Alzheimer.
Et demain, voilà, on vous invite tous à rejoindre
Le cortège.
Là, c'est le...
Cortège TNT.
Cortège TNT, ouais. Est-ce que c'est un cortège? En tout cas, il y a un point fixe. Le problème, c'est qu'au moment où je suis parti de chez moi pour...
Pour le point fixe.
Non, pas pour le point fixe, mais pour rejoindre le studio, le point fixe n'était pas encore déterminé, parce qu'entre-temps, le parcours a changé. Alors,
c'est pas vraiment un point fixe, en fait.
À dire des conneries, ça m'énerve. Donc, il y a le... De toute façon... Je sais pas s'il y a drôle. Bon, bref, à 14h, la manif va partir de Place d'Italie. Elle se dirige... Arrête de ricaner, ça me saoule. Franchement, ça me saoule.
Bon, oui...
Elle se dirige Place Vauban, mais je sais plus le, je suis pas sûr du parcours. Donc, je suis pas sûr du point fixe de la CNT. Voilà. Parce que ça change. Voilà.
Bon, bah, la manif demain.
Faites comme vous pouvez. Voilà. Et 21h. Bon, il y a personne après. Nouvelle petite rubrique nécrologique. Hein? La dernière fois, vous annoncez la mort de Serge Divrozet. Voilà, j'en ai quatre. Donc, les camarades du Sub CNT nous ont appris le décès d'une camarade, Pascal Dugno. Voilà. Le 20 décembre 2022. Il y a Claude Guillon aussi, pour ceux qui le connaissent, qui avait écrit Suicide mode d'emploi, qui est mort le 19 janvier. Et un autre aussi qui a été malheureux, c'est Joël Dubard, Mal d'Aurore, je ne sais pas si vous avez connu, la rue Saint-Ambroise, un passionné de Lautréamont.
Mmh. Excellent. Mmh.
Ben voilà, il est le 22 janvier 2023. Et puis ben, Claude Rua, une camarade de l'AFA et de RL qui s'est éteinte aussi le 22 janvier. Et c'est l'émission Femmes Libres. Mmh. Et la vérité, fin... Je crois décembre 2022, me semble-t-il. Voilà. Bon. Ah bah c'est pas gay tout ça.
Bah, on avait commencé par une rubrique nécro avec le batteur des.
De, bah voilà.
Des vaches laitières, donc là, on est en temps. Hein.
Marc, maintenant à l'âge qu'on a, on va se diriger vers ça plus. Hein. Hein, on va se dépêcher puisque à 64 ans c'est fini. Pour
ouais.
Pour plus rien faire.
Pour ceux qui ont écouté la chronique du Mercator, oui, ça risque. C'est pas l'âge légal, c'est l'âge létal. La retraite.
Voilà, bah un petit communiqué de presse aussi du syndicat des industries et services de Haute-Garonne. Voilà, les camarades de la CNT 31 qui étaient en lutte contre une patron d'une pâtisserie, Patatis. Ils n'avaient pas bien respecté les droits de travail. Enfin, donc, ils ont fait des piquets de grève pendant plusieurs mois. Et le patron, il a préféré fermer la boîte plutôt que de régler les problèmes syndicaux et sociaux. C'est fort quand même, non? C'est bien. Ça, c'est du patronat. Ça, c'est...
Voilà. Il a vendu sa entreprise, c'est ça?
Il dit, ça marche pas, l'entreprise. Évidemment, le mec, il faisait des piquets de grève. Donc les clients, ils adhéraient au discours des salariés qui étaient spoliés. Donc, un petit peu moins de ventes. Ça ne marche pas, bah j'arrête. Alors qu'il aurait négocié, dit bah oui, je vous dois de l'argent, vous avez fait des heures sup, hein. Je vous les paye.
Ah ouais,
ça aurait été.
Ah ouais, d'accord. Ah oui,
moi, je ne sais plus exactement le. Mais voilà.
Ouais,
donc okay. Il ferme. Voilà, camarades, donc pour toutes ces raisons et pour vos retraites, demain, vous nous rejoignez place des fêtes, 14h. Si vous allez. Vous allez nulle part. Vous allez sur le site de la CNT, peut-être que vous saurez le point de rendez-vous. Et puis voilà. Non ? On vous laisse. On va bientôt lancer le générique. Merci Bénédicte, parce que j'ai foutu la pression à mort alors que c'est moi qui fais des conneries sur la table de mixage. Elle n'en pouvait plus. Merci Martine qui tape sur son.
Je vais chercher le parcours du dé.
Tu ne vas pas le trouver. Non, enfin, tu vas le trouver.
Mais il faut aller sur le site cnt.fr.
Ah oui, parce que là tu peux peut-être avoir une info, mais en général, ça circule entre nous. Voilà.
Mais bon.
Parce qu'on ne va pas passer par l'avenue Auguste Blanqui, en fait. Mais je ne me souviens plus, je n'ai pas noté.
Oh, mais tu cherches toujours tes papiers.
C'est vrai. C'est nul, hein. C'est comme ça, la maison. La maison, c'est rangé comme ça. comme sur la table, bordel. Je finis par m'y retrouver, mais il faut un petit peu de temps. Ouais. Bon, on vous laisse. La semaine prochaine, on refait une émission et ce sera avec, c'est la surprise pour Eric peut-être, avec Jean-Michel Rodrigo, ouais, réalisateur d'un film documentaire qui s'appelle Via El Salvador.
Qui était donc passé au Vignol.
Passé l'année dernière au Vignol, il y a quelques mois, en octobre-novembre. Et sur une ville totalement autogérée, qui s'est construite et autogérée par ses habitants. Par les... Voilà, c'était la très, très, très intéressant. Donc, eh ben, ça sera en audio lundi prochain, le 6 avril. Voilà, 19h30. On a réussi à trouver une date, parce que c'est dur, c'est quand même du boulot. Les intermittents du spectacle, tout ça, c'est... Hein. Et j'espère qu'il y aura Jean-Manuel aussi, des Muses Samus qui viendra. Voilà.
Votre artiste.
J'ai pas regardé les mails avant de partir pour... voilà.
Qu'est-ce que t'aimes? La lessive, leur passage.
Voilà.
Ah, les tâches ménagères.
Envoie-nous donc là.
L'esclavage moderne.
Voilà, sinon on va jamais s'arrêter.
Et puis j'ai faim.
Il a faim.
Bon, allez, ciao.
La semaine prochaine, 6 avril, 19h30. Ouais. Et puis on va essayer de pas cafouiller comme j'ai fait là.
Ouais. Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement. Puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et là, cœur fraternel. Nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.